Bonsoir à tous. François Bayrou, donc, nouveau Premier ministre. Réaction dans un instant des députés de Sévrien, Jean-Marie Fivet et Bastien Marchive. Noël avant l'heure pour les hôpitaux de Niort et du nord de Sèvres. Une enveloppe de 50 millions d'euros leur est dédiée pour financer leurs projets. Les chalets sont en place. Le marché de Noël de Cerisay se tient ce week-end. Scène de territoire soutient également la production artistique à l'image du nouveau projet porté par le réalisateur multimédia Irvine Annex. Après le déplacement à Bilbao, retour à la Bethlehem Élite pour Cholet Basket avec la réception demain soir de Bourg-en-Bresse.
La météo à l'issue de ce journal, ciel partagé entre soleil et nuages pour notre week-end. C'est bien entendu l'information de cette fin de semaine.
François Bayrou a donc été nommé Premier ministre. Allié historique d'Emmanuel Macron, il est chargé de dénouer la crise politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale il y a 6 mois, aggravée par la censure de Michel Barnier, provoquant la chute de son gouvernement. Première réaction, celle du député macroniste de la 3e circonscription de Sévrienne, Jean-Marie Fivet, satisfait, bien entendu, de cette nomination.
François Bayrou fait partie des relations avec le président de la République depuis fort longtemps. C'est quelqu'un du centre, comme nous. Donc je suis ravi. Maintenant, moi je ne le connais pas personnellement. J'espère qu'on va pouvoir travailler correctement ensemble, mais je ne suis pas inquiet.
Sa posture centriste, justement, est-elle à même de rassembler, selon vous?
Je pense que oui, si les groupes politiques d'opposition sont prêts à travailler ensemble, il n'y a pas de raison. Mais malheureusement, j'ai déjà perçu cet après-midi que la France Insoumise veut déjà déposer une motion de censure avant même que son gouvernement soit constitué. Ça me fait de la peine, ça m'afflige quand même de voir que les hommes politiques ne pensent qu'à eux et ne pensent pas aux Français et aux citoyens. Et ça m'inquiète un peu, c'est-à-dire que les gens, avant même de savoir comment il sera composé, quelles seront ses grandes lignes directives, déjà ils déposent des motions de censure, ils veulent déposer des motions de censure. C'est affligeant de voir ça, d'entendre ça. Et j'espère que tous les autres groupes politiques, que ce soit le PS, que ce soit les écologistes ou autres, voudront travailler avec. Il faut arrêter de penser à soi-même et au cours d'école, là.
Quant aux députés de la première circonscription du Parti radical apparenté groupe Ensemble pour la République, Bastien Marchive, le président du Modem peut être l'homme de la situation pour ramener de la stabilité au sein de l'Assemblée nationale.
Si M. Bayrou, par le passé, a été très engagé avec un esprit de modération, il a une expérience également qui est reconnue, ça doit pouvoir permettre d'être utile dans la fonction qui est désormais la sienne. Néanmoins, il va devoir aussi être en mesure, demain, de ne plus être le représentant d'un camp, ni d'un parti politique. Il va devoir agir conformément au vote des Français lors des dernières élections législatives, et donc être en mesure de dépasser suffisamment largement le spectre de sa famille politique.
Quelle soit, selon vous, sa priorité, là, maintenant ?
Alors sa priorité, elle doit être claire, c'est celle d'aboutir à un accord de non-censure et à un pacte qui permette l'adoption d'un budget pour l'année qui arrive. À ce stade, le 2025 commence dans 2 semaines, on n'a toujours pas de budget pour l'année, donc c'est des entreprises qui n'ont pas de visibilité pour savoir si elles peuvent investir, savoir si elles peuvent recruter, c'est des particuliers qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent avancer dans leur projet personnel, c'est des collectivités qui elles aussi n'ont pas de visibilité pour faire leur budget et enclencher les investissements locaux. On ne peut pas rester dans cette situation. La priorité, c'est de doter la France d'un budget, et pour ça, il faut un pacte de non-censure.
Nous avons tenté de joindre Delphine Bateau, la députée de la seconde circonscription, mais pour l'heure, cette dernière n'a pas donné suite à nos sollicitations. Le positionnement centriste du maire de Pau lui permettra-t-il d'aboutir à un consensus entre les députés? Réponse dans les jours qui viennent.
50 millions d'euros.
C'est la somme qui va être allouée à l'hôpital de Niort et au centre hospitalier Nord de Sèvres pour la réalisation de projets d'investissement, tout particulièrement pour la psychiatrie. L'annonce a été faite hier à Niort par le directeur de l'agence régionale de santé. Cette annonce, très attendue, s'inscrit dans le cadre du Ségur investissement et des promesses faites par l'ancien ministre de la Santé lors de sa venue en Nord de Sèvres. Noël Bott, le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, a détaillé ce plan d'aide exceptionnel devant les élus locaux et au micro de D4B.
On a 2 types d'investissements. Un investissement exceptionnel dans le nord de Sèvres pour la psychiatrie, conformément aux engagements que Olivier Véran avait pris quand il était venu dans ce département il y a quelques années suite à l'événement dont tout le monde se souvient, de pouvoir reconstruire l'ensemble de la psychiatrie du nord de Sèvres. Et cette aide de 25 millions d'euros va permettre de financer à 100% ce projet dans un territoire où l'État avait déjà beaucoup investi, avec un centre hospitalier Nord de Sèvres qui est aussi pratiquement neuf. Et enfin, parce que l'ensemble du territoire est important. Le Agnor, il y avait aussi des projets d'investissement importants pour le territoire, avec un projet aussi sur la psychiatrie et la santé mentale qui avait besoin d'être rénové et restructuré. Un projet sur les urgences, qui est une priorité du Ségur de la Santé, avec cette plateforme commune SAMUS 10 pour mutualiser sur la régulation et rendre un meilleur service à la population, et un bâtiment de médecine et de santé publique. Après discussion avec l'hôpital, il nous a semblé important que ces trois projets puissent se faire, et l'ARS, grâce au Ségur de la Santé, a débloqué 25 millions d'euros encore, en plus, pour permettre d'accompagner l'hôpital pour réaliser ces projets.
Comme l'explique également Benoît Helbot, ces investissements et ces restructurations ne sont rien sans les professionnels de santé.
Si aujourd'hui l'État investit fortement dans le département, c'est parce qu'on sait pouvoir s'appuyer sur un projet médical fort, d'abord qui unit tous les professionnels de santé de Deux-Sèvres, et s'agissant de la psychiatrie, dans une alliance forte avec le centre Laborie, avec les professionnels de la Vienne qui viennent en appui, et notamment les professionnels hospitalo-universitaires qui viennent en appui pour porter ce projet médical, et qui aujourd'hui nous rassurent sur le fait qu'en investissant, cet investissement va être fructueux, puisqu'on aura derrière un projet médical attractif pour des professionnels qui vont pouvoir prendre en charge les populations.
Concernant maintenant le projet de plateforme commune entre le 18 et le 15, il devrait se concrétiser d'ici 3 ans. La Caisse d'allocation familiale des Deux-Sèvres versera la prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime de Noël, à partir de mardi prochain aux bénéficiaires du RSA. Cette prime représente un coup de pouce pour les ménages les plus fragiles avant les fêtes de fin d'année. Elle varie selon la situation familiale, allant de 152 à 442 euros. En Deux-Sèvres, 6064 personnes précisément sont concernées, pour un montant total d'un peu plus d'1 300 000 euros.
Le marché de Noël de Cerise est ce week-end.
Le rendez-vous est donné en centre-ville demain de 15 à 20 heures et dimanche de 10 à 18 heures. La ville est à la manœuvre, bien soutenue par de multiples partenariats avec les associations locales. On peut citer notamment le CSC, Arts et Loisirs, le Secours Catholique, l'APE, Sœur Idiaise et le basket qui va tenir la buvette cette année. Les commerçants sont également partie prenante avec des animations commerciales. Les exposants et les animations vont attirer le public pendant tout le week-end, d'autant que la météo s'annonce clémente. Rachel Merlet, adjointe au maire, chargée de la vie culturelle et de l'animation locale, au micro-colline de Fabien Gazot.
Cette année, nous avons, comme d'habitude, une trentaine d'exposants, donc des artisans, des créateurs, des producteurs locaux. Et nous avons également cette année une douzaine de nouveaux exposants. Donc il y aura vraiment une diversité d'exposants sur ce marché de Noël. Oui, le marché de Noël à Cerisay, ce sont des rendez-vous d'animation à ne pas manquer pour tous, hein, avec des contes de Noël à la bibliothèque. Il y aura aussi une séance de cinéma, un concert de Noël avec la chorale Cerisay. Et bien sûr des musiques tout au long du week-end avec la fanfare de Boimé, et également un accordéoniste sera présent sur le week-end. Il y aura bien sûr pour les enfants des diverses animations, donc des balades à poney sont prévues, et il y aura également la mini ferme d'Elysée avec de nombreux animaux à découvrir. Nous, la ville, on attache beaucoup d'importance à avoir un joli décor féerique, donc on a un joli village de Noël au cœur du centre-ville avec des chalets en bois, des sapins, des décors de Noël qui sont aussi fabriqués par les services de la ville, avec des jolis lutins. C'est vrai que c'est très féerique de voir tous ces petits personnages qui sont créés en bois avec des petits chapeaux rouges qu'on peut découvrir dans différents endroits de la ville. Donc oui, les gens apprécient beaucoup.
Et puis bien entendu, le Père Noël sera présent tout le week-end sur ce marché de Noël de Cerisay. Donc demain samedi de 15 à 20 heures, dimanche de 10 à 18 heures, avec une fête foraine en parallèle durant ces deux jours.
Scène de territoire soutient la création artistique.
Le bras armé de l'Aglo de Bay sur le plan culturel ne se contente pas de diffuser des spectacles sur le territoire. Scène de territoire soutient aussi la production artistique sous toutes ses formes. C'est le cas cette saison avec Irvine Annex, auteur et réalisateur multimédia qui a déjà collaboré plusieurs fois avec la structure dirigée par Béatrice Dopagne. En 2023, avec Cher Futur Moi, il avait invité des jeunes à se confier face caméra. En 2024, ce jeune homme a réuni plus de 100 personnes dans une expérience de correspondance intergénérationnelle et interculturelle. Pour 2025, Irvine Annex prépare d'ores et déjà une création partagée avec des habitants sur les recettes de Valette et d'ailleurs.
On a décidé de travailler cette année avec les habitants autour des recettes de cuisine, parce que la cuisine, c'est quand même assez fédérateur, ça rassemble tout le monde, c'est aussi un patrimoine qui est un peu considéré pas forcément comme un patrimoine, et on trouvait ça intéressant de traiter ce sujet. Voilà.
ce que vous réalisez, ce sont des films, des vidéos, hein. C'est toujours ce travail-là. Hein.
Oui, toujours un projet de film documentaire. Donc là, l'idée, ce serait de proposer du coup aux habitants volontaires du territoire de ramener avec une recette qui est chère à leur cœur, soit une recette qui leur rappelle leurs origines, leur territoire, une recette familiale de leur grand-mère, une recette apprise lors d'un voyage, enfin une recette qui est vraiment importante pour eux ou pour sauvegarder un patrimoine agricole ou autre. Et donc l'idée, c'est de la réaliser dans les cuisines du CSC ou dans des cuisines collectives avec d'autres habitants. L'idée, c'est de créer une grande chaîne de transmission. Et donc moi, je viendrai évidemment filmer ces recettes en train de se préparer.
Et comme toujours avec Irvine Annex, derrière cette approche via la cuisine, il y a la volonté de découvrir l'autre, de dresser des portraits.
L'idée, c'est de s'intéresser autant au cuisinier qu'à la recette. C'est une porte d'entrée pour aborder des questions. Alors hier, on a fait une première rencontre avec des habitants volontaires. Il y en a qui ont parlé de plats, mais je trouve que c'est des portes d'entrée pour aborder la question du végétarisme, par exemple, de manger local, des traditions rurales ou agricoles, ou comment on rapporte de son pays natal une recette qui nous rappelle ses origines, etc. Donc évidemment, ce serait une porte d'entrée pour aborder d'autres sujets, pour aborder peut-être même dresser un portrait plus intime du cuisinier, de son archéologie familiale, etc.
La création partagée avec des habitants sur les recettes de Valette et d'ailleurs sera présentée le 4 avril 2025.
Cholet Basket reçoit Bourg-en-Bresse ce samedi à la Meilleraie.
La défaite à Bilbao va-t-elle marquer un coup d'arrêt ? On sera très vite fixé puisque demain soir, la réception de Bourg-en-Bresse, 5e de la Betclic Elite, en dira encore un peu plus sur le potentiel de CB, privé pour 2 mois de son intérieur McNeice, blessé au mollet. Fabrice Lefrançois, le coach, ne doute pas de la capacité de rebond de son équipe face à une formation talentueuse.
Il faut prendre de toute façon chaque match avec beaucoup de respect et d'envie. Et voilà, ça va être un match contre une équipe clairement qui ambitionne le top 4. Parce qu'en début de saison, on se disait il y avait les 3 équipes d'Euroleague plus Bourg-en-Bresse. Donc voilà, on vient ici chatouiller un petit peu tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est de lutter pour garder et gagner cette place.
Comment est-ce que tu les vois ? Quel regard tu penses sur eux, sur Bourg ?
Déjà, c'est une équipe qui est très très talentueuse avec des talents individuels incroyables, que ce soit Usher, Castaneda, Nelson, il y a beaucoup beaucoup de talent avec deux postes 5 très athlétiques, très dans les courses et dans le combat. Donc ça va être un match vraiment vraiment difficile. Il faut qu'on s'attende à ça, un match difficile. C'est quand même une équipe qui est invaincue à l'extérieur en championnat de France. Donc voilà, on est invaincu à domicile.
Cholet Basket Bourg-en-Bresse ce samedi à 20h30 la Meilleraie, à suivre en direct sur Colline. Demain soir donc, les commentaires seront assurés par François Larue et Jérémy Maginot. Au chapitre des faits divers, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans une chambre à l'étage d'une maison, square Varese à Saint-Mexant-l'École. Inoccupé au moment du sinistre, aucun blessé n'est donc à déplorer. La municipalité devrait trouver une solution d'hébergement pour la maman et ses 3 enfants qui occupaient l'habitation.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Nous aurons bien eu quelques éclaircies aujourd'hui, Patrice.
Mais surtout des nuages et toujours dans le froid. Le brouillard pourrait revenir dès ce soir et nous pourrions le retrouver demain matin. C'est un partage entre soleil et un nuage inoffensif qui nous est annoncé pour ce week-end. Les températures de l'ordre de 1 à 3 degrés au lever du jour pour des maxis autour de 6 degrés demain samedi, 8 dimanche.
Merci beaucoup Patrice. C'est tout pour l'info près de chez nous ce vendredi. Retour demain matin
avec Fabien Gazot à 8h02. Bon début de week-end avec Colline. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche à 10h pour Sport Matin Dimanche aux côtés de mon compère Jean Grelier.
Demain soir ?
Et demain soir sur les baskets. Il est vrai, face à Bourg-en-Bresse. Coup d'envoi du match, c'est à 20h30, je vous rappelle.
Salut Patrice, à demain.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.